Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux malgré les troubles de la période. Voilà le forum du jeu vidéo dans le cadre du festival Prestart. Peut-être qu'on aura le temps au cours de l'après-midi de présenter aussi les autres événements qui vont avoir lieu et de vous parler de cet événement qui nous tient à cœur, cet événement de jeu vidéo du coup de la Bibliothèque publique d'information. L'après-midi va être dense, va être chargé. On a beaucoup de rencontres, donc je ne vais pas faire de longs discours inutiles et on va commencer directement dans le vif du sujet. Mais avant ça, je voudrais juste simplement vous parler d'un petit projet avec Frédéric Bonnard, qui est professeur au collège Beaumarchais, juste à côté d'ici, professeur du coup avec une classe de 3e, et Chloé Vigneault de la société Copotato, dont les élèves, une classe, est venue pendant le festival. Ça fait un mois, depuis le début de l'année, qu'ils travaillent pour créer des petits jeux. Et donc, ils vont vous présenter les petits jeux, mais je laisse Frédéric et Chloé dire un petit mot pour présenter le projet.
Donc, bonjour à tous. C'est un atelier qui s'est réalisé sur 3 mardis après-midi, donc qui représente environ 12 heures de travail, et qui a concerné une classe de 3e du Collège Beaumarchais dans le 11e arrondissement de Paris. Des élèves qui font de la programmation depuis la 6e en mathématiques et dans le cours de technologie.
Donc pour remercier d'abord la BPI et Frédéric pour la participation à cet atelier, moi j'ai eu la chance et l'honneur d'accompagner ces élèves sur une dizaine d'heures pour produire des jeux sur le thème post-apocalyptique, le thème du festival. Vous pouvez découvrir leurs jeux à l'entrée, je vous invite à y jouer et bon après-midi à tous.
Voilà, vous allez voir, les élèves vont passer, ça durera des tout petits piges de 2 minutes, ils vont vous présenter ce qu'ils ont fait. En vrai, c'est très charmant et sans plus attendre, je laisse la parole à Erwan pour présenter la première table, mythologie et jeux vidéo, héritage religieux des représentations apocalyptiques, peut-être qu'ils changeront un peu les intitulés. Merci.
Ah, on a le droit de changer les intitulés.
Un peu, ouais, un peu.
Super. Bonjour à tous. Bienvenue à cet après-midi de réflexion autour du jeu vidéo et de la fin du monde, parce qu'on est en 2020 et que ça semble être un sujet d'actualité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand on m'a présenté les événements. C'est original, la fin du monde. En même temps, dans les jeux vidéo, la fin du monde est un thème plus que récurrent, est un thème qui revient tout le temps. Ce serait difficile de dire de plus en plus, parce qu'il a tout le temps été là. Les premières références qui nous viennent à l'esprit quand on pense fin du monde, elles datent du milieu des années 90 et de la fin des années 90, avec des grands jeux de rôle type Fallout qui ont quand même marqué, avec le prédécesseur de Fallout, Wasteland, qui date de 1988. Donc on a comme ça toute une histoire, et puis évidemment les derniers jeux en date, parce que c'est vraiment un thème très récurrent. On va en parler de toute façon, et je pense qu'il va revenir de manière régulière dans cette journée parmi les intervenants. C'est The Last of Us 2 qui est donc sorti avant l'été et qui est peut-être qui recoupe comme ça en lui beaucoup de ces références post-apocalyptiques, avec pas mal de notions sur la nature qui reprend le pouvoir, sur les ruines, sur pas mal de choses qui sont liées au sujet post-apocalyptique. Alors l'organisation d'aujourd'hui, nous, on va commencer avec, évidemment, à parler de jeux vidéo, parce que les deux intervenants ici présents sont des spécialistes du sujet. On va parler d'apocalypse, de fin du monde, de post-apocalypse, et on va essayer de relier ça, peut-être pas tout le temps, peut-être pas on va pas se limiter à ça, mais au mythe, à la religion et au culte autour de cette notion d'apocalypse dans les jeux vidéo. Parce que je ne vais pas parler après, en fait. C'est pour ça que je profite en début d'intervention. J'ai vraiment le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi donc Jeanne Rousseau, donc, qui est fondatrice, auteur principale et présidente de Spiders Games.
Spiders tout court, en fait.
Spiders, pardon.
Oh ouais, c'est le nom du studio. Mais c'est pas grave, tout va bien.
J'ai copié-collé quelque chose sur Internet, ça doit venir de là. Est-ce que tu peux peut-être présenter ton studio et ton travail au sein de ce studio? Tu m'as dit auteur principal, voilà, c'est quoi?
Oui, bien sûr. Donc Spiders, c'est un studio qu'on a créé en 2008 avec quelques collègues avec qui j'avais déjà travaillé, déjà développé des jeux. Et on s'est spécialisé dans le développement de jeux de rôle essentiellement. Donc on a développé notre sixième jeu est sorti en septembre de l'année dernière. Et entre autres, on a effectivement développé deux jeux qui se passent dans un même univers, qui est un univers qui est assez post-apocalyptique, même si on peut pas vraiment, enfin c'est un genre un peu particulier puisque ça se passe sur Mars. Donc on est à la croisée de deux genres. Donc voilà, c'est effectivement des univers qui m'intéressent évidemment et dans lequel je me nourris pas mal. Mon rôle effectivement chez Spiders, outre le fait de gérer, encadrer et de prendre des décisions pas toujours marrantes d'ailleurs au quotidien, c'est surtout de concevoir les univers, les scénarios et d'écrire les dialogues en partie ou en totalité selon les projets. Donc voilà.
Et vous venez, il y a quelques semaines, moi, de présenter aussi les images de votre prochain jeu, qui s'appelle...
Oui, on a commencé, mais c'est le tout début de la production, donc c'est un peu, pour nous, c'est un peu étonnant, et bizarre d'ailleurs d'en parler, voilà, c'est vraiment juste un reveal, Steel Rising, donc notre prochain jeu, qui lui, c'est une forme d'apocalypse aussi, mais c'est un peu étrange, puisque ça se passe au tout début de la Révolution française. Avec une horde d'automates qui déferlent sur Paris.
On peut voir les images sur le site, c'est pour ça. Avec Jeanne Rousseau, donc j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Antoine Colombani, docteur en littérature comparée, et entre autres donc spécialiste des liens entre jeux vidéo et mythologie et philosophie grecque. C'était le thème de votre thèse, ces liens. Du coup, moi j'ai envie de poser une question super ouverte, mais je sais qu'il y a toujours un danger quand on s'adresse à un universitaire, c'est qu'on soit encore là demain matin, mais c'est quoi ces liens justement entre le jeu vidéo et la mythologie grecque, la philosophie grecque? Il y a vraiment des liens très forts d'influence de...
Alors oui, effectivement, je ne vais pas être trop long, parce que sinon... mais effectivement, ce qui m'a en fait, moi, intéressé dès le début, c'était vraiment de revenir à qu'est-ce que c'est le mythe, qu'est-ce que c'est la mythologie. Et en fait, le mythe, c'est simplement quelqu'un qui un jour décide de prendre la parole et de raconter une histoire. Et déjà là, il produit en fait du mythe. Et donc, en fait, j'en revenais à ce principe créateur. C'est-à-dire le mythe est une création efficace. C'est une création qui agit sur quelqu'un. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'était de voir comment le jeu vidéo pouvait retrouver cette dynamique-là qu'on retrouve dans ce que j'ai étudié dans la mythologie grecque, mais qui en fait irrigue probablement toutes les mythologies. Après, je ne les ai pas étudiées, donc je ne peux pas en parler. Et en fait, en revenant à ce principe créateur, donc le jeu vidéo doit nous amener à repenser la société, à repenser le monde, et plus que ça, doit nous amener en fait à agir. J'en revenais à d'abord ce qui est le principe du mythe, c'est-à-dire un principe de métaphore, c'est-à-dire le mythe a toujours un discours caché, qu'il va falloir essayer de trouver, ce qu'on appelle une vérité en fait transformée. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent chez tous les poètes. Donc évidemment chez Homère. Homère est peut-être un des premiers ou un des derniers en fonction d'où on se situe, qui va réussir à développer cette idée que le mythe doit agir. Et dans, par exemple, l'Odyssée, il y a toute une réflexion en fait sur la condition humaine. Qu'est-ce que c'est être un homme? Eh bien, c'est ne pas avoir une forme de démesure, c'est posséder la mémoire, c'est cultiver le blé pour avoir le pain, bon, c'est vivre en cité. Et donc j'essayais de montrer que dans le jeu vidéo, on retrouve ces aspects-là. Mais ce qu'il faut peut-être finalement comprendre, c'est que l'objectif, c'était vraiment de montrer le rôle qu'ont les poètes, et en fait les poètes, ce sont aussi les créateurs de jeux vidéo, c'est-à-dire les développeurs et les développeuses, comment ils peuvent montrer le monde et nous amener à le repenser. Mais repenser le monde, ce n'est pas en fait tout à fait suffisant. C'est-à-dire que le poète peut définir, peut écrire le monde tel qu'il doit être. Et à ce moment-là, il revient dans la cité, alors que Platon lui-même avait jeté le poète hors de la cité, précisément parce qu'il avait peur de ça. Et le poète était remplacé par le philosophe. C'était lui qui devait amener les gens à agir et à comprendre la relation qu'ils entretenaient avec le monde. Voilà, en gros, ce que je peux dire.
Et donc, du coup, dans ce lien, cette utilisation de ce principe-là de création, finalement, c'est quelque chose que vous avez détecté, on va dire, cette influence-là dans la création de jeux vidéo, parce que vous parlez d'action, par exemple, le fait d'agir sur les mondes, c'est quelque chose qui est à l'intérieur des jeux, c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être, enfin, je ne vais pas faire de généralité, mais on a aussi l'impression, par exemple, que les messages purement politiques ou dans les jeux vidéo ne sont pas forcément très, très courants, en fait. Donc,
pardon, mais c'est une vaste connerie, hein. Je suis désolé, hein, mais il y a de la politique partout dans les jeux vidéo.
Non, mais bien sûr. Mais
certaines sociétés disent qu'elles n'en font pas, que c'est vrai.
Bien sûr. Non, mais il y a des revendications ces derniers mois, justement, quand on a essayé de confronter certains créateurs de grands titres de jeux vidéo, où ils se sont non, attention, on n'a pas de message, on ne veut pas de message. Évidemment, quand on parle d'un jeu de guerre qui se passe au Moyen-Orient, c'est un peu compliqué de...
Quand on a un jeu qui s'appelle Tom Clancy's, quelque chose, je suis désolée de le dire, mais c'était un auteur qui était particulièrement politique. Donc ça paraît aberrant de dire qu'on va utiliser le matériel créé par cet auteur-là en faisant fi de tout propos politique, puisqu'il en avait un lui-même.
Donc, oui, bien sûr. Merci, d'ailleurs. on vous avait prévenu. Hein. Mais non, c'est juste sur le principe d'agir sur le monde. Ce qu'on reprend dans la mythologie grecque, c'est vrai que les univers des jeux vidéo sont des univers aussi sur lesquels on agit. C'est aussi dans ce sens-là où...
Oui, c'est ça, complètement. C'est, d'un point de vue même du gameplay, c'est comment on agit sur l'univers.
D'accord.
Mais c'est toujours, en fait, le principe, parce que vous parlez de politique, mais ce qui est intéressant, en fait, dans les mythes, c'est qu'il y a aussi de la politique. Mais elle est complètement, en fait, altérée par le prisme de l'imaginaire. C'est-à-dire le poète n'a jamais comme rôle de dire les choses clairement. Il va toujours essayer de les cacher pour amener en fait le lecteur et aujourd'hui le joueur à essayer de détecter et de mieux comprendre. Mais c'est toujours un travail que l'on fait sur soi en fait. Donc le poète ne dit pas ce qu'il faut faire, mais il invite à penser ce qu'il faut faire.
Voilà. Il y avait un article très intéressant sur. Il y avait un article très intéressant il y a très peu de temps, écrit par une game designer, qui disait que le jeu vidéo n'était que le nouvel avatar en fait narratif utilisé par les êtres humains pour transmettre leurs histoires. Et c'est très très juste, c'est-à-dire que la narration de mythes, d'histoires est passée par de très nombreuses formes orales d'abord, puis écrites, puis imprimées, puis etc. Chantées, le film plus récemment, la bande dessinée et effectivement récemment le jeu vidéo. Il y en aura sans doute d'autres qui vont apparaître par la suite. On peut penser à la VR, etc. Et en soi, ça s'inscrit dans une longue tradition de narration. Et du coup, le lien, évidemment, avec parmi les premiers grands narrateurs dont on a gardé le nom, se fait de manière évidente, quoi. De Homère, aujourd'hui, à la création vidéoludique, finalement, ce n'est qu'une évolution de support, mais la démarche est la même.
Est-ce que... Justement, il y a les mythes qu'on nous raconte. J'ai vraiment faire une sorte d'image qu'on utilise très très souvent et tout ça. Mais dans les mythologies, dans les récits des mythes, on est récepteur d'un récit. Est-ce qu'il y a une différence à partir du moment où on intègre un joueur là-dedans qui va pouvoir influencer sur les récits ? Parce qu'en fait, finalement, si je reprends cette même réflexion, le joueur se retrouve au centre du mythe, enfin, ou en tout cas dans le décor aussi, mais très souvent au centre du mythe. Est-ce que ça change comme ça la construction ?
Complètement. En fait, on n'écrit pas du tout un jeu vidéo comme on écrit un film, ou comme on écrit une série, ou comme on écrit un roman. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça rejoint finalement les méthodes de narration orale qui existaient à l'époque d'Homère, et qui existent dans de nombreuses cultures, évidemment pas que dans la culture traditionnelle grecque, où finalement le conteur propose un récit que les autres gens autour vont s'approprier, vont modifier, auxquels ils vont rajouter des bribes d'histoire, et ils vont faire évoluer comme ça et créer le mythe est émergent en fonction effectivement de l'audience qui connaît en fait les schémas de cette histoire, de ces histoires-là, mais qui va broder dessus, rajouter des petits détails, etc. Et finalement, ça rejoint un peu la manière dont on inclut le joueur dans l'écriture, en fait. On est obligé, en fait, quand on écrit pour le cinéma, on fait quelque chose qui va être projeté, on est en face, on regarde, on aime ou on n'aime pas, on peut être effectivement complètement adhéré à la vision de l'auteur ou au contraire la trouver absolument épouvantable, mais on ne peut pas agir dessus. Dans le jeu vidéo, en fait, quand on écrit pour le jeu, on doit se mettre sans arrêt à la place des joueurs. Alors, on n'y arrive pas toujours, hein, mais on essaye autant que possible de se demander ce que le joueur voudrait faire à ce moment-là, comment il aimerait réagir, avec quoi il aimerait interagir, qu'est-ce qu'il voudrait modifier, etc. Et le rythme de la narration doit s'adapter au fait qu'on doit toujours laisser le joueur prendre la main. Si on lui met 10 minutes de cinématique dans l'œil, en général, au bout d'un moment, il en a marre parce qu'il a posé la manette, il est parti se faire un café, etc. Donc, on est obligé toujours de se dire il faut lui rendre la main tout le temps, il faut lui permettre d'agir, lui permettre d'interagir. Et du coup, évidemment, ça ne s'écrit pas du tout pareil, quelque chose qui va être linéaire, où finalement, on prend le lecteur ou le spectateur par la main et on l'emmène jusqu'à la fin de l'histoire. Bon, après, si ça ne lui plaît pas, il peut toujours sortir de la salle ou fermer le bouquin, mais ça reste quelque chose d'assez binaire, finalement, comme réaction. Même si ça n'empêche évidemment pas de faire naître plein de choses dans l'imagination. Je ne dis pas du tout que c'est des médias qui n'ont pas une force de visualisation très forte, etc. Mais dans la méthode d'écriture, en tout cas, on est obligé de se poser dans un rôle qui est complètement, complètement différent.
C'est-à-dire, en caricaturant, vous avez dit que le joueur peut aller prendre un café pendant la cinématique, mais il peut aussi passer les dialogues. Il peut aussi passer les textes.
Évidemment.
Il peut aussi, je ne sais pas qui dans la salle a lu tous les livres de Skyrim, mais il peut aussi ne pas lire. Il peut aussi ne pas s'intéresser à l'histoire. Comment est-ce qu'on le fait rentrer dans ce mythe à ce moment-là ? Est-ce que, pour revenir, même pour raccrocher au sujet finalement, est-ce que commencer un jeu vidéo avec un côté monde détruit, post-apocalyptique, où il y a eu une fin du monde, il y a eu quelque chose, ça permet finalement de forcer le joueur aussi à chercher des réponses par l'environnement, par ce qui l'entoure, comprendre déjà pourquoi ce monde est détruit, pourquoi...
Il y a, on va dire qu'il y a différents ressorts qui sont assez classiques dans la narration. Il y a effectivement le fait de mettre une urgence qui est... Alors, si on fait référence par exemple au Fallout, l'urgence, elle n'est pas dans les destructions, le monde a été détruit déjà, il n'y a plus rien à faire. Par contre, si, ce qui reste à faire, c'est sauver la petite communauté de l'abri, etc., c'est trouver des ressources qui sont manquantes, etc. Donc, en fait, on crée une urgence après la dévastation. La dévastation, en tant que telle, n'est pas une urgence. Mais on va voir d'autres jeux où la dévastation n'est pas complètement arrivée, où elle est en phase d'arrivée, etc. On peut penser au Final Fantasy dont on parlait tout à l'heure, Final Fantasy VII, où on a ce météore qui arrive, etc. Il faut agir avant qu'eux. Et on est déjà dans un monde qui est quand même qui va pas très bien, qui reflète une forme de violence qui évoque quand même pas mal les mondes justement post-apocalyptiques. C'est, de toute façon, on a besoin, effectivement, pour motiver, alors surtout dans les RPG, mais ça se retrouve aussi un peu dans les jeux d'aventure, de toute façon, pour motiver, effectivement, le joueur, lui donner un but global, même si, à côté de ça, il va passer son temps à aller chercher des chats dans les arbres, collectionner des drapeaux et des pigeons. On va, de toute façon, devoir lui donner un but principal qui soit, effectivement, quelque chose qui soit glorieux, quoi. Sauver les copains, sauver l'abri, sauver le monde peut-être, etc. Quoi.
Oui, parce que généralement, le monde même détruit peut encore être sauvé, autrement ça...
Ce qu'il en reste, en tout cas.
Ouais. Ce qu'il en reste. Dans ces principes, dans ces rouages mythologiques qu'on peut avoir, grecs en tout cas, est-ce que justement, quelle place prend la fin du monde et, est-ce qu'il y a comme ça une influence que vous pouvez...
Alors, dans la mythologie grecque, alors en fait, il faudrait dire gréco-romaine exactement, on retrouve effectivement un mythe du déluge, mais en fait, il est raconté par, si je ne me trompe pas, dans les métamorphoses d'Ovide, donc au 1er siècle, avant notre ère, mais on trouve déjà quelques éléments un petit peu épars chez Pindare au 4e siècle, beaucoup plus tard, beaucoup plus tôt, et ensuite, un petit peu plus tard aussi, au deuxième siècle, mais bon, qu'importe. Mais c'est vrai que par contre, le mythe de la fin du monde n'est pas extrêmement présent en fait dans la mythologie grecque. On a ce mythe du déluge, alors que je peux le raconter si c'est possible.
Moi j'aime toujours les histoires. Bon.
Bah, c'est vrai qu'on. Et alors le mythe commence assez facilement. Zeus, qui n'a pas grand chose à faire, descend voir les hommes pour voir s'ils sont toujours un petit peu croyants, ils sont toujours un petit peu sympas. Et puis il rencontre un tyran, il choisit un tyran qui s'appelle. Lycaon, oui, c'est ça, c'est Lycaon. Alors, je rappelle qu'on est dans les métamorphoses d'Ovid, donc Lycaon donne une petite idée de comment il va finir. Et Lycaon, en fait, pense que Zeus n'est pas Zeus, enfin, en tout cas, que Zeus n'est pas un dieu, et il lui sert de la chair humaine, et Zeus, qui évidemment est un dieu, reconnaît que c'est de la chair humaine, et donc châtie Lycaon. Puis il retourne dans l'Olympe, et là, il réunit les autres dieux, et il décide que, bon, l'humanité, c'est bien sympa, mais ça ne fonctionne plus très bien. Donc, on va créer une espèce d'énorme déluge qui va détruire, en fait, le monde et tuer les hommes. Sauf un couple, Deucalion et Pyrrha, qui vont être prévenus par Prométhée, qui construisent, en fait, une arche et qui se retrouvent au sommet du mont Parnasse. Montparnasse qui restera célèbre ensuite dans la poésie, par exemple chez le poète italien Marino, le Parnasse désigne en fait justement cette vérité cachée, c'est la montagne des poètes, et on le retrouvera un peu plus tard en France, mais bon, qu'importe. Et donc au moment où l'eau se retire, Deucalion et Pyrrha vont voir un oracle qui leur explique qu'il faut refonder l'humanité. Et alors, ce qui est sur le coup assez étrange, c'est qu'a priori, pour refonder l'humanité, ils auraient suffi...
Ils sont vieux, hein, en même temps.
Pardon ?
Deucalion et Pyrrha, ils sont vieux, ils sont âgés.
Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Oui.
Mais bon. Frétillant et...
Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Et donc, on leur soumet une énigme, puisque, évidemment, les dieux ne peuvent pas parler normalement, ils parlent toujours par énigme, ce qui sert bien les poètes, d'ailleurs. Et ils doivent, donc, l'énigme qu'on leur pose est la suivante. Il faut récupérer, enfin, prendre... les ossements de la grand-mère et les jeter par-dessus le dos, enfin, derrière. Donc eux réfléchissent et puis Pyrrha trouve la réponse. Et en fait, il suffirait de récupérer les pierres de Gaïa qui sont posées comme ça sur la terre, la terre étant représentée par Gaïa. Et donc ils jettent les pierres et de Deucalion naissent les hommes, bon, et de Pyrrha naissent les femmes. Ça, c'est, voilà. Et donc l'humanité à ce moment-là est reforgée. Donc c'est le seul exemple qu'on a véritablement de mythe du déluge. Et je vais juste finir. Il me semble en fait que toute cette réflexion sur ce qu'est une pierre, ce que représente la pierre, qui en fait en philosophie on appelle ça le toujours déjà là. C'est-à-dire que la pierre était là avant et puis elle continue à être là après. C'est-à-dire que la pierre, le rocher, et en fait c'est la même chose pour les ruines, nous survivent toujours. Elles étaient là avant qu'on naisse et elles seront là après notre mort, il y a cette idée de permanence que l'on retrouve en fait dans l'idée même de création. C'est-à-dire que la création est toujours une reconfiguration qui prend le réel, mais un réel passé, qui le transforme pour en donner quelque chose. Donc en fait, il faut bien comprendre que toujours chez Ovide et en fait toujours chez les poètes, il y a cette volonté de dire autre chose que ce qu'on peut simplement lire.
Mais c'est vrai que chez les Grecs, il y a plus une notion cyclique et donc l'idée d'une fin. Comme un aboutissement qu'on peut trouver par contre chez les Nordiques, n'existe pas à proprement parler. On trouve effectivement des grosses catastrophes qui sont racontées à travers différents mythes. Le déluge en fait partie, on peut penser aussi à la gigantomachie et au combat qui oppose les dieux et les Akhotanchirs et Typhon, etc., qui est assez dévastateur, hein, puisque les dieux fuient en Égypte, se transforment en animaux, enfin bon, il y a plein de rebondissements sur lesquels je ne vais pas revenir, Zeus est quand même laissé, les tendons arrachés, enfin, c'est en termes d'image, c'est extrêmement violent. Et Typhon évoque bien en plus l'idée de la dévastation, mais c'est effectivement, on n'a pas vraiment l'idée d'une fin en fait. Et donc la notion de fin et le temps linéaire est quelque chose qui n'est pas grec. Le temps linéaire va apparaître plutôt dans les religions du livre, enfin en tout cas dans notre culture. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans d'autres, hein, mais dans ce coin-là du monde, c'est plutôt dans les religions du livre. Et effectivement, avec l'idée d'un avancement vers quelque chose. On retrouve évidemment le déluge dans la Bible avec l'Apocalypse de Saint Jean, on va effectivement avoir des textes qui sont particulièrement dramatiques et qui vont être en plus extrêmement prisés en Occident dans la représentation visuelle que ça peut évoquer au Moyen-Âge. On va trouver ça notamment comme sujet très 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 récurrent dans les peintures, dans la poésie aussi, etc. C'est vraiment un thème qui est repris. Il faut dire que c'est assez, que toute cette espèce de poème un peu fou qu'est l'Apocalypse, il y a des thématiques qui sont, on va dire, assez séduisantes, en fait, en termes en tout cas iconographiques. Et l'idée, effectivement, que le monde soit proche de sa fin et prêt, effectivement, où les justes sont jugés, enfin, il y a quelque chose qui est finalement à la fois terrifiant et vachement rassurant, en fait. C'est ça, enfin, tout ce monde qui fait n'importe quoi va être, tu vois, mis au pied du mur. On va mettre les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Bon, OK, il va y avoir des rebondissements multiples, mais finalement, ça se termine bien, l'Apocalypse. Contrairement, en général, aux jeux post-apocalyptiques. Oui. Puisque, justement, si on est après, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais... et voilà, je pense que c'est un motif qui reste séduisant, qui culturellement est complètement ancré depuis du coup au moins 1500 ans dans les, on va dire, dans les iconographies occidentales, et donc on va retrouver. Et je pense que ce qui a ramené l'intérêt de manière générale dans la littérature, dans le cinéma et évidemment du coup dans le jeu vidéo de l'Apocalypse, c'est le fait que il y a eu la bombe, il y a eu, enfin, le jeu vidéo échappe pas en fait à cette mode de sujet, et suite effectivement à la fois à la bombe, à la fois on va dire au mouvement New Age qui a eu un impact énorme sur la vision de l'Apocalypse dans le jeu vidéo de manière générale. Et sur aussi on a l'horloge de la fin du monde, etc. Enfin, c'est quand même des thématiques qui nous environnent de toute façon. Et je suis désolée de le dire, mais le jeu vidéo ne parle que de ce qui nous entoure, en fait. C'est un miroir de la société, c'est un miroir des angoisses contemporaines, et ainsi de suite. Donc,
Je vais juste rebondir, peut-être juste un point supplémentaire, c'est que ce qui est fascinant, en fait, dans le post-apo, c'est que ça contraint, d'une certaine manière, enfin, c'est une bonne contrainte, les développeurs à imaginer, en fait, le monde. Et là, on renoue complètement avec ce que faisait, par exemple, Homère, Hésiode, où ils imaginent l'origine du monde. On imagine un monde. Alors, certes, il s'est passé quelque chose, mais on peut, à ce moment-là, développer au maximum son imagination pour se dire, mais maintenant, qu'est-ce qui arriverait dans ce monde-là? Comment un nouveau monde apparaît? Qu'est-ce qu'on garde de l'ancien monde? Qu'est-ce qui a changé? Et l'Apocalypse, ça désigne bien une révélation. Donc ça révèle ce que l'homme ferait après une espèce de fin du monde. Et on renoue avec une tendance des poètes vers le 16e, qui est la cosmographie, où on doit bâtir, imaginer et décrire le monde en faisant en sorte que tout soit extrêmement cohérent pour que ce soit justement efficace. Et on revient à ce mythe en tant que création efficace. Et je trouve que c'est absolument, j'imagine pour un créateur, absolument génial de se dire, bon ben voilà, maintenant c'est le début. Donc, qu'est-ce qu'il y a au début? Qu'est-ce qu'il y a au commencement?
C'est quelque chose qu'on fait quel que soit le type d'univers, en fait. C'est qu'on crée un univers de fantasy, qu'on crée un univers effectivement de science-fiction. Les contraintes sont juste différentes, en fait. C'est que dans un cas, il faut qu'il y ait des elfes, dans l'autre, il faut que ce soit crédible comme une continuité du monde actuel. Mais fondamentalement, c'est un peu le même exercice, en fait. On part de questions assez simples, mais là, ça, c'est une conférence à part entière, en fait, d'expliquer comment on crée un univers, donc je vais pas me lancer là-dedans. Mais on part souvent, en fait, de la géographie au sens large, c'est-à-dire de l'état du monde, et de plus en plus précis, c'est-à-dire, d'accord, par exemple, c'est la Terre, mais la Terre après telle catastrophe, mais où sur Terre? Est-ce qu'on est en Australie, ou est-ce qu'on est, j'en sais rien, en Inde, ou est-ce qu'on est, parce que malgré tout, les choses ne sont pas pareilles, et ainsi de suite. Et à partir de là, on va de plus en plus dans le détail, mais en passant, entre autres, par la spiritualité et la religion. Est-ce que la religion a toujours sa place là, là où l'est? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Si on est en Inde, par exemple, est-ce qu'on peut très bien imaginer une survivance de l'hindouisme? Peut-être même que c'est l'hindouisme qui s'est complètement imposé, parce qu'il a aussi des figures qui sont très fortes et qui potentiellement peuvent être extrêmement à la fois rassurantes et servir de guide dans un univers post-apocalyptique, par exemple. Puisque la création et la destruction sont liées de manière assez intime dans l'hindouisme. Mais enfin voilà, en fait, en fonction de choix de départ qui vont être où ça se passe et dans quelles circonstances, on va continuer à faire plein de choix qui vont servir à rendre ce monde de plus en plus cohérent.
Pour revenir, juste, je reprends, pense à un truc sur le déluge. Un des autres points communs avec les modèles d'apocalypse qu'on retrouve dans le jeu vidéo, c'est que à la base, la responsabilité, c'est l'Icaon, donc c'est l'homme. Donc c'est la responsabilité humaine du déluge. J'ai fait, alors c'est un tour rapide, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais j'ai regardé, on va dire, les plus connus des jeux vidéo qu'on pourrait qualifier de post-apocalyptique au sens large, parce que je sais bien, par exemple, j'ai mis Borderlands dans ma liste, alors que c'est sur Pandore, donc c'est pas sur Terre. Mais bon, on va dire que ça reprend, on va dire, les modèles. Et en fait, j'en ai trouvé que deux où l'apocalypse, on était à peu près innocent. Alors en plus, je m'en souvenais pas parce qu'il y a Rage et Rage 2, où c'est là vrai. Pour le coup, c'est la chute d'un astéroïde, donc on n'y est pour rien. En tout cas, à première vue.
Elle est bien méritée.
Et le deuxième, c'est Frostpunk, qui est sorti en 2018, qui était un jeu de gestion post-apocalyptique, où là, c'est l'éruption du Krakatoa et du mont Tambora dans un 1886 alternatif qui ont masqué le soleil. Donc là, encore une fois, on y est pour rien. Mais alors, dans tous les autres, on est sur forcément la catastrophe nucléaire, l'épidémie incontrôlée, l'attaque biochimique.
Mais l'épidémie qui souvent est provoquée, qui n'est pas une épidémie naturelle,
bien
elle
sûr.
Est quasiment systématiquement provoquée par un obscur laboratoire dont le logo ressemble à un parapluie, quoi. Mais on est effectivement presque toujours, et c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, honnêtement plus lié à une vision de l'apocalypse et du déluge qui est biblique, on va dire, au sens très large, que à proprement parler grec, parce que même si les Grecs perçoivent cette espèce de renouveau nécessaire en fait de l'humanité avec le on se débarrasse de tout ce qui ne va pas pour amener une meilleure un nouvel âge en fait hein, et un âge plus positif. On n'a pas cette idée de culpabilité très forte. La culpabilité est quelque chose qui est vraiment, on va dire, particulièrement prisé et valorisé dans les religions du livre, et c'est quelque chose qui effectivement est quand même assez mis en avant, probablement parce que la plupart de ces jeux-là sont des jeux qui ont été conçus aux États-Unis. Et honnêtement, toute la réflexion, on va dire, moraliste ou amoraliste d'ailleurs, des jeux post-apocalyptiques est, je pense, extrêmement nourrie d'une culture américaine qui a ses particularités en fait.
Oui, l'Arizona, Mad Max, le désert, les boules de paille qui volent et tout ça.
Alors, c'est à la fois effectivement visible dans le côté graphique, bien sûr, mais c'est aussi, je pense, visible dans une, on va dire, une sorte de vision assez religieuse finalement de la société, où si l'homme se coupe de Dieu, s'il est fautif, il va devenir complètement amoral, il devient hyper violent, il devient, etc. La société va péricliter, on est vraiment dans la punition divine complètement. Quoi. Y compris dans Westland, et pourtant c'est présenté de manière hyper punk, déglingue, etc. Et c'est super, mais on sent quand même une culture dont ils n'ont pas pu se débarrasser, parce qu'elle fait partie d'eux, je pense, profondément, qui est assez... typique, on va dire, de cette forme de religiosité américaine qui est plus, qui n'est pas que catholique, etc. Qui est vraiment, il y a tous ces mouvements religieux qui sont très spécifiques. D'ailleurs, il y a très très souvent des sectes qui sont présentées dans ce genre de jeu, toutes plus déglinguées les unes que les autres. D'ailleurs, entre le culte de la bombe, etc. Enfin, les sectes religieuses présentées là-dedans font malgré tout aussi référence à pas mal de cultes qui sont assez typiques américains et qu'on peut retrouver en vrai, entre guillemets, aux États-Unis là-bas. Donc je pense que c'est quelque chose qui est aussi lié vraiment, oui, à une culture qui est locale, quoi.
Ouais, qui et c'est un point que vous avez abordé là et que je trouve assez intéressant aussi, c'est dans le déluge grec, on va dire qu'on se débarrasse de la mauvaise engeance et on reboote l'humanité sur des bonnes bases. L'apocalypse dans les jeux vidéo, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que mis à part le joueur, qui s'il veut bien, il est gentil, mais alors tout ce qui l'entoure, il ne reste plus que une sorte de sauvagerie généralisée, parce que à partir du moment où la société est tombée, où la civilisation est tombée, avec ses religions, avec sa morale, avec ce genre de choses. Tout le monde n'a qu'une seule envie, c'est de se mettre sur la gueule, en fait.
Bien. Si je peux. Merci. Mais alors ça, sur le coup, c'est quand même très grec, parce que, par exemple, chez Aristote, l'homme qui ne vit pas en cité, c'est un dieu ou un monstre. Donc il y a quand même cette idée que si on ne vit pas en communauté, on est quand même un peu un barbare. Enfin, un barbare, le terme n'est pas correct. Mais
l'homme est un animal politique.
Pardon ?
L'homme est un animal politique.
Oui, c'est ça, l'homme est un animal politique, exactement. Donc on a quand même quelque chose qui fait qui invite l'homme à vivre en cité, et pas simplement en fait à vivre, mais à mieux vivre, à bien vivre. C'est vraiment le terme que ce qu'on appelle en grec le démonia. C'est-à-dire qu'on ne vit pas en cité parce qu'on n'a pas le choix, on vit en cité parce que pour vivre le mieux, on a besoin de ça. On a besoin d'être en communauté. Et chez Aristote, il y a un terme qui en grec qui est la philia. Alors, on voit la référence en français. La philia, c'est l'amour, l'amitié, qu'on pourrait aussi traduire par la conciliation, parce que quelque chose qu'on trouve chez Montaigne, par exemple, aussi un peu plus tard. Et donc, c'est bien qu'il faut entretenir un rapport de connaissance de l'autre, un rapport d'intimité presque avec l'autre, pour être capable de bâtir une société qui soit la plus juste possible. Donc, il y a quand même, pour revenir à ce que vous disiez, il y a quand même cette idée que si on ne vit pas en cité, bon, on est un monstre. Et je reviendrai juste sur un point qui est aussi très grec, c'est que il n'y a pas la notion de péché chez les Grecs, évidemment. Par contre, il y a quand même une notion de démesure, ce qu'on appelle libris ou loubris, et que si l'on transgresse une frontière, ce que dit aussi le mot loubris, eh bien, on peut être châtié par les dieux. Dans les Métamorphoses d'Ovide, bon, ça s'exprime comme ça, chez Homère aussi, évidemment. Et en fait, ce qui est tout à fait intéressant, par contre, c'est que ça n'empêche pas d'agir. C'est-à-dire que loubris peut être contourné, mais il faut être assez malin. Et l'intelligence rusée, la métis chez les Grecs est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut savoir contourner les frontières sans se faire voir par les dieux. Mais si par contre on est vu, si on est pris au piège, bien là par contre on reçoit le châtiment divin, bon, qui est généralement assez violent.
Mais alors effectivement, je confirme tout à fait. C'est peut-être l'oubris, c'est peut-être la seule chose qu'on puisse rapprocher de la notion de péché chez les Grecs. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le fait qu'on est dans un monde effectivement amoral, violent, etc. Personnellement, plus que comme une vision effectivement, on va dire relativement grecque des choses, du zon politikon qui, parce qu'il est sorti de sa ville, se retrouve effectivement à l'état sauvage, parce qu'il y a des villes, il y a souvent des villes d'ailleurs dans les jeux post-apocalyptiques qui sont représentées. Dans Fallout, on a des, alors c'est des petites villes, c'est des espèces d'assemblages de bicoques peut-être, mais il y a quand même cette idée de se retrouver en groupe. Il y a des clans, c'est pas forcément parce qu'il est sorti du clan que l'homme devient violent, mais personnellement je le vois effectivement plus comme l'idée de, il y a eu l'apocalypse et maintenant on est en enfer. Et maintenant, du coup, parce qu'on est en enfer, on est dans cette espèce de monde inversé où ce qui représentait avant, ce qui était rassurant, devient maintenant effrayant et dangereux. Effectivement, les règles ont volé en éclats. On est dans une vision extrêmement moraliste, en fait, vraiment, de cette idée de, puisque l'apocalypse a eu lieu, puisqu'on a causé l'apocalypse d'une certaine manière, et ben forcément, on arrive à cette espèce de monde inversé où la morale a volé en éclats, où il n'y a plus les limites sociales, etc. Et c'est notre punition, en fait. C'est notre grande faute, etc. On peut se flageller un petit peu au passage. Et même si derrière, évidemment, le personnage du joueur a la possibilité, lui, d'être le gentil, d'être celui qui va ramener l'équilibre, qui va rétablir les choses, qui va, etc., potentiellement retrouver le paradis perdu. On est assez proche de Milton aussi, hein, dans l'Apocalypse.
Je crois qu'on arrive au bout, comme quoi, hein, même avec des sujets comme ça, on arrive à aller assez loin dans la discussion. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Je vais redonner. Merci en tout cas, merci Jeanne Rousseau et merci Paul-Antoine.
Merci beaucoup. Peut-être on peut prendre une ou deux questions peut-être ça.
Avec plaisir.
Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont une question?
Bonjour, merci pour cette discussion très enrichissante. Je voulais vous demander justement, là jusqu'à maintenant en fait on disait que la dimension de post-apocalyptique avait toujours un poste, c'est-à-dire qu'en fait l'humanité n'est pas complètement détruite comme on voyait dans les différentes mythologies. ou comme le jugement dernier, comme on voit dans la mythologie chrétienne, normalement, plus d'un d'humanité. Et donc, du coup, je me demandais si vous connaissez des jeux où, justement, à part The Forest, où on a justement cette notion de dire oui, on détruit l'île ou non, on ne détruit pas l'île, qui apparemment, d'après l'histoire, serait le dernier symbole de l'humanité. Est-ce que vous connaîtriez d'autres jeux, justement, qui disent bon, ben, on va chanter, mais toute l'humanité, parce que c'est soit c'est le choix scénaristique ou c'est le choix on va dire, du joueur.
Alors en général, enfin ça arrive, hein, mais c'est souvent des choix de fin de jeu en fait. C'est vraiment la décision ultime à prendre. Dans un de mes jeux notamment, c'est possible. À la fin de Bound by Flame, on peut décider de transformer la Terre en gigantesque volcan magmatique et voilà, il n'y a plus d'humanité. C'est possible. D'accord. Maintenant, bon, c'est évidemment à partir du moment où on fait le choix, bah c'est fini quoi. C'est le
oui. Et juste aussi que je suis totalement d'accord avec vous, le jeu vidéo ne peut pas être construit comme un livre ou comme un jeu de société, etc. C'est tout à fait une autre manière effectivement d'apporter l'histoire. Donc prenons l'exemple effectivement de Thésée, justement, avec cette mythologie de la file d'Ariane, et ben il y a un jeu qui s'appelle Thésébus, et là, c'est un jeu en VR. Que ceux qui ont une VR, eh ben, ils jouent, je vous le conseille vivement. Et justement, nous sommes un peu spectateurs de ce jeu, de cette aventure de Thésée. Et en fait, on l'aide juste à faire quelques actions. Et en fait, littéralement, nous sommes un peu le spectateur, ou je ne sais pas, mais en tout cas derrière Prométhéus. Il n'y a rien de problème. Thésébus. Derrière ce truc. Mais là, voilà, j'ai juste apporté que je suis totalement d'accord avec vous.
Est-ce qu'on prend une deuxième question ou est-ce qu'on passe à la suite?
Alors par contre, je suis désolé, oui. Être un peu embêtant. Si les personnes peuvent parler un peu plus fort, parce que je suis un peu dur d'oreille, de rapprocher vraiment le micro, parce que voilà, sinon je...
On prend. Oui, deuxième question.
Et juste, j'ai trouvé un jeu post-apocalyptique où il n'y a pas d'humanité du tout. Il y avait Tokyo Jungle où ça se passait. Il y avait que des animaux en fait. C'était assez rigolo. Ça commençait comme ça, il n'y avait pas le choix en fait. Tokyo Jungle. J'ai pas aimé en tant que joueur, mais c'est.
Alors, bonjour, merci beaucoup pour la conférence, c'était super intéressant. En fait, je voulais savoir si. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on assiste un peu à une homogénéité, entre guillemets, de la représentation d'une apocalypse ? Dans le sens, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on a une vision très occidentale de ce que pourrait être une apocalypse. Et je voulais savoir, en fait, si, pour vous, par exemple, comment vous pourriez imaginer une apocalypse représentée par un pays d'Amérique du Sud ou par l'Afrique, ou savoir quelque chose un peu... enfin, je ne sais pas. Je me demande, en fait, si les développeurs, ils s'enferment pas un peu dans une représentation d'une vision qu'on pourrait avoir, alors qu'aujourd'hui, on voit, par exemple, l'émergence des... ce qu'ils appellent les wholesome games, c'est-à-dire les jeux qui valorisent quand même le partage et la bienveillance. Et en fait, je me demande du coup si ça ne serait pas aussi une option. Je ne sais pas, j'aime bien de dire que c'est quand même un peu positif aussi.
Alors, il y a deux choses. Il y a ce qui a provoqué l'apocalypse et l'événement lui-même. Et après, la réaction et la manière de vivre des survivants. Le fait est que, et on en parlait tout à l'heure, en fait, dans les quelques exemples de catastrophes massives qui sont réellement arrivées dans l'histoire, on sait que finalement les gens se sont plutôt montrés, mis à part peut-être quelques petits groupes, etc., mais se sont montrés beaucoup, plutôt solidaires, voire même très solidaires. Ça a créé au contraire un sentiment très fort d'entraide qui n'existait pas forcément au quotidien avant. Cette espèce de catastrophe. Alors on parlait de Katrina, mais c'est arrivé à d'autres endroits et c'est assez bien documenté. Donc effectivement, il y a mille manières de parler de ce que ferait l'humanité après l'apocalypse. Personnellement, d'ailleurs, même si c'est un monde qui est relativement violent, le monde de Mars qu'on a développé à travers Technomancer et Mars n'est pas, on va dire, classique du... c'est un monde, au contraire, où il y a des sociétés qui sont très très installées. C'est un monde religieux. C'est un monde, enfin, c'est un monde très très structuré. On n'est pas du tout dans l'apocalypse à la Mad Max, qui est finalement encore très très présente dans l'imaginaire effectivement de beaucoup de jeux occidentaux. Mais je pense que c'est alors effectivement en allant s'adresser à d'autres cultures, on aurait sans doute des réponses nouvelles et très intéressantes. Le mieux étant de demander ça à des développeurs qui peuvent être effectivement Inuit ou d'Amérique du Sud ou de différents endroits. Et on aura sans doute effectivement des réponses différentes et intéressantes et novatrices, c'est une évidence. Maintenant, je pense que même nous, on peut aussi un peu essayer de sortir un peu des clichés et inventer d'autres choses, ça peut être pas mal.
Excusez-moi, je voulais juste aussi dire que je pense que cette homogénéité, elle est aussi due en fait à la forme de gameplay qu'on impose souvent à ce jeu d'Apocalypse, à savoir que le fait que ce soit par exemple des TPS ou des FPS, c'est-à-dire des jeux quand même avec le principe d'avoir un pistolet dans les mains à première vue, ça implique aussi toujours cette réponse violente à un problème. Moi je vois que par exemple les RPG par exemple ont une approche très différente de ces questions d'Apocalypse parce que justement elles s'adressent beaucoup plus au peuple qui vit directement sur ces situations-là. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon point, mais c'était un peu ce que je voulais soulever aussi, c'est qu'en fait, la forme FPS et TPS, elle enferme aussi sur une réponse violente que je trouve parfois un peu dommage.
Oui, mais c'est le genre qui veut ça. Après, ouais. le genre et le gameplay et l'univers du jeu sont effectivement intimement connectés dans la création de l'objet jeu vidéo derrière auquel vous allez jouer. Et c'est difficile de pas prendre en compte ce qu'on va devoir faire dans le jeu au moment où on conçoit l'univers. Donc, il est certain que certains clichés d'univers vont être particulièrement valorisés quand le jeu a vocation d'être un jeu d'action, de combat, etc. Il y a des builders et des jeux de gestion qui se passent dans un univers post-apo, ben Frostpunk en est un. Évidemment, on est dans une démarche qui est complètement différente. Mais il y a souvent quand même du coup des communautés autres qui, eux, vont à un moment devenir ennemis, etc. Mais évidemment, selon le type de jeu, on va valoriser des choses différentes dans la création de l'univers.
Merci beaucoup. Avant de continuer les réflexions du coup sur les rapports entre jeux vidéo et société, qui sont le thème du coup de ces rencontres, vous avez les programmes dans la main. On va simplement laisser présenter le groupe des crocodiles, n'est-ce pas? C'est ça, des crocodiles? Sika. Donc voilà, je vous donne le micro et c'est parti, c'est à vous.
Bonjour à tous. Nous allons vous présenter notre jeu. En 2500, la Terre a été recouverte par les océans. Les seuls survivants cohabitent sur des îlots. Leur but à tous est de retrouver Sika, l'île-mère. Dans notre jeu, nous suivons l'histoire de Serena, une jeune africaine de 20 ans. Un matin, elle se retrouve échouée sur une île. Il lui faudra surmonter de nombreuses péripéties et mésaventures pour arriver à son but et s'enfuir de l'île.
Le jeu se déroule en deux étapes. La première étape, Serena devra franchir l'obstacle des rochers. Elle ne devra pas tomber dans l'eau, car sinon elle se fera manger par les crocodiles. Si elle tombe une fois, elle perd une vie, mais la deuxième fois, elle devra recommencer l'épreuve. Elle peut avancer, reculer et sauter. Une fois arrivée de l'autre côté de la rive, elle fera la rencontre d'un vieux monsieur qui lui proposera une énigme. Et elle devra répondre juste pour pouvoir accéder au bateau et ainsi gagner le jeu. Dans le cas contraire, elle perdra. C'est donc un jeu de plateforme et d'énigmes.
Dans le jeu, nous avons Nola et Lisa qui ont travaillé sur l'élaboration des règles du jeu. Gabriel et Aïla ont fait les musiques et les niveaux. Louis a fait la programmation. Nicolas a fait les graphismes et j'ai écrit l'histoire.
Merci beaucoup. Je vous rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est des jeux du coup une classe de 3e du Collège Beaumarchais. Ça fait un mois qu'ils travaillent avec nous tous les mardis depuis un mois où ils ont été créés des jeux pendant le festival. C'est des jeux que vous allez pouvoir, si vous voulez, les tester à l'entrée de la BPI. Il y a le salon jeux vidéo, du coup il y a les installations du festival et vous pouvez tester ces jeux. Et entre nous, ils ont fait un excellent travail. C'était une classe qui a été extrêmement motivée, qui a fait des choses très belles. Je vous invite vraiment à y aller. après ces rencontres. Et je laisse immédiatement la parole à Jean Z pour la deuxième rencontre.